Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonjour chez vous, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la continuité du direct sur Campus, c'est comme tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois, quasi. Source, l'émission du libre, des libres, sous toutes leurs formes, leurs formules, leurs formats, tant que l'Université libre de Bruxelles héberge en son nom, plus qu'en son sein certainement parfois, cette belle notion, eh bien voilà, des nouvelles du monde du libre et parfois aussi du pas libre, parce que évidemment, action, réaction, pouvoir contre pouvoir, tout cela va ensemble, c'est assez lié, et aujourd'hui, ben voilà, il fait un petit peu gris, mais pas de souci. Il y aura des nouvelles du front aussi, bien sûr, mais d'abord de la musique libre. Au bout du fil.com recèle quantité de morceaux que l'on peut copier, publier, modifier, transformer et en faire éventuellement un usage commercial avec les crédits obligatoires. Là, c'est Créo qui nous envoie dans un petit moment de je crois que c'est du breakbeat. Clément Eubert, plus connu sous le pseudo de Créo, est un artiste indépendant originaire de Vienne. L'Autrichien aime sortir des sentiers battus en explorant de nouvelles choses sans tomber dans l'expérimentalisme. C'est ce qui caractérise son style. Original, efficace, non conventionnel. Il utilise parfois des samples d'instruments qui ne sont pas toujours associés à la musique électronique. C'est osé et novateur. Voilà pour la petite intro. Le temps que le net divulgue quelques petites pages de PeerTube. On est en mode très réduit. Aujourd'hui, je suis seul en studio. Fred Uxo commande. Les potes arriveront par le net à un moment donné, certainement aussi, car il y a de la fête dans l'air. Le Caldarium est en ébullition ce soir. C'est un grand moment pour tout doucement lancer l'université Populibre numérique et autres festivités liées à Neutrinet, du beau. Enfin voilà, tous des petits noms dont vous avez déjà entendu parler sur cette même antenne, dans cette même émission. Et là, pour l'heure, on va se mettre tout doucement en musique. Yop, 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 yop. C'était Brute Forcing avec ce de ce cher Mururoar. Un tout petit tour par l'Allemagne avec Mururoar qui est un artiste bien ancré dans la breakbeat. Une lourde ligne de basse, de bonnes pulsations pour des instants jungle, une prod. Voilà, voilà. Oui, tout ça au bout du fil.com. Donc, des nouvelles du front, vous disais-je. Mais par exemple, un petit article ce matin dans la Libre de chez nous, la Libre.be. Si vous n'êtes pas tombé dessus, eh bien, c'est Jacques Follon, qui est un grand homme de conseil, de bons conseils aux entreprises, aux organismes publics, essentiellement consacré à la transformation digitale, pour ne pas dire numérique chez nous en français, c'est-à-dire aux conséquences de l'arrivée de nouvelles technologies dans les organisations, tant publiques que privées. C'est également un coach de dirigeants d'entreprises, d'indépendants, de créateurs d'entreprises, de salariés, de chômeurs, pour les aider à trouver leur chemin et celui de leur organisation dans un monde en mutation. Il est prof à l'Université de Liège, à l'ICHEC. Il est, voilà, c'est une tête pensante qui voit effectivement essayer de remettre en place la transition, si on est dans un monde en mutation. Par exemple, son dernier bouquin, Management et ressources humaines 2.0. Alors, pour le pitch du bouquin, si vous avez envie de vous le procurer, eh bien, les théories du siècle dernier, tant en management qu'en ressources humaines, sont aujourd'hui souvent dépassées face à un univers qui a fondamentalement changé. Des concepts du siècle dernier tels que les organigrammes pyramidaux, les structures en silo, l'autorité formelle basée sur l'ancienneté, la communication top-down volent en éclats face au nouveau comportement des travailleurs connectés, aux réseaux sociaux internes, au crowdsourcing, à l'infobésité. Voilà, le manque de motivation des collaborateurs au sein d'entreprises qui n'évoluent pas vers un fonctionnement plus transversal est en augmentation importante et entraîne un coût non négligeable. Les managers et leurs collaborateurs sont aujourd'hui souvent déboussolés face à des bouleversements technologiques dont les conséquences sont aussi importantes que celles apportées préalablement par la révolutions industrielles, puis par l'informatisation des entreprises. Voilà, ça c'est le Jacques Follon en question. Et il signait ce matin dans La Libre, dans le chapitre Opinion, une petite question comme ça. Protection des données personnelles, 2 points, vers une disparition de Facebook et des GAFAM en Europe. Parce qu'une décision de la Cour de justice irlandaise a ordonné à Facebook d'arrêter immédiatement d'envoyer des données de résidents européens vers les États-Unis. Alors évidemment, ça fait un petit tollé, hein, parce que quand même, on avait quand même le Protection Shield, là, je sais plus quoi. Voilà, mais ce genre de petites choses qui protégeaient donc bien via le RGPD quelques notion de respect de la vie privée, un peu à l'européenne comme ça. Tant pis si ça rapporte plus beaucoup de sous. Mais donc du coup, ce qui s'est passé avec ça, c'est que il n'était plus vraiment possible de pouvoir d'avoir le temps de pouvoir passer un nouvel accord, car espérer une signature rapide d'un nouvel accord Europe-USA, eh bien c'est pour deux raisons, c'est un petit peu compliqué, comme l'a rappelé le commissaire européen Didier Reynders. Rien ne se passera avant l'élection du président. De plus, un nouvel accord nécessiterait un changement de législation aux États-Unis pour limiter l'accès des autorités aux données des entreprises, ce qui est peu vraisemblable. Alors, cette décision a pour conséquence que les entreprises européennes ne peuvent donc plus transférer de données personnelles vers les USA. Et à titre d'exemple, elles ne peuvent plus utiliser les clouds américains pour héberger leurs données, ni les Google Ads pour les publicités ciblées, ni les MailChimp pour les campagnes d'email, etc., etc. Alors, il n'y aura pas vraiment le temps de se retourner parce qu'un certain Max Schrems, un juriste autrichien, et son ONG Not Off Your Business est à l'origine donc d'une décision qui a porté plainte contre 101 entreprises européennes qui utilisaient Google Ads et Facebook Connect, et ce dans tous les États membres. Alors les autorités européennes de protection des données ont réagi en annonçant qu'elles établiraient une réponse coordonnée. Ouais, mais quand? Et ce problème ne s'arrête pas là, parce que suite à la décision de la Cour de justice, l'autorité irlandaise a ordonné donc à Facebook d'arrêter immédiatement d'envoyer des données des résidents européens vers les États-Unis. En effet, comme Jacques Follon le signalait précédemment, les autorités avaient signalé qu'il n'y aurait pas de période de grâce. Facebook a réagi en deux temps. D'abord, Facebook a décidé d'aller en appel contre la décision de l'autorité irlandaise. Bah ouais, hein, que peut-il faire de mieux ce cher Zuckerberg? Et puis, tout récemment, Facebook a signalé que, comme il leur était impossible de cesser ce transfert de données d'Europe vers les États-Unis, ils ont menacé de purement et simplement boycotter l'Europe. ce qui signifierait la fin de Facebook en Europe, mais aussi d'Instagram. En effet, car dans cette déclaration récente, Yvonne Cunanan, peut-être en anglais, qui est responsable de la protection des données personnelles chez Facebook Irlande, précise, il n'est pas clair pour Facebook comment, dans de telles circonstances, il serait possible de continuer à fournir les services, Facebook et Instagram en Union Européenne. Ah ben voilà. Et pourquoi l'autorité de protection des données s'arrêterait-elle en chemin? Pourquoi ne prendrait-elle pas une décision similaire vis-à-vis d'autres membres des GAFA? Bizarre qu'ils mettent pas le M à la fin, pour Microsoft quand même, parce que ça c'est... Enfin oui, alors là, l'acronyme devient quand même vachement long. Mais donc voilà, qui est elle aussi établie en Irlande, la décision de la Cour de justice s'applique à tous. Bon voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la suite de cet article, eh bien c'est dans la Libre de ce jour. Et remercier donc Jacques Follon d'avoir mis un petit peu le doigt là où effectivement ça gratouille, ça chatouille. Et c'est un peu ce qui nous prend pour des andouilles. Cela pour vous amener tout doucement à une autre petite réflexion qui vient donc de là un petit peu d'Internet libre, le PeerTube du bio sans glyphosate et sans perturbateur endocrinien. Une réflexion de ce cher ex-youtubeur, parce que maintenant il a mis toutes ses vidéos sur PeerTube. Mais voilà, comment YouTube, c'est le Uber de l'information. On va voir un petit peu ce qu'il en dit avec cette liberté d'expression soi-disant chère à nos petites ouailles. Wally Wallou, c'est parti, je vous laisse avec notre ami Cermil.
Salut l'internaute, c'est Jemil. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, vous êtes toujours plus nombreux à suivre cette chaîne. Plus 5000 nouveaux abonnés ces 28 derniers jours. C'est assez conséquent. Et à vous lire, ce qui vous pousse à rechercher et à regarder des vidéos sur Internet, c'est le désir de retrouver une information de qualité, à savoir pluraliste, critique et plus proche. Dans cette vidéo-ci, il va être question de vous démontrer que ce qui vous a fait vous séparer de votre téléviseur ou de votre abonnement dans un journal classique risque fort bien de vous pousser à faire la même chose avec YouTube et Internet en général. Avant toute chose, une information. Toutes mes vidéos depuis janvier 2019 qui sortent sur YouTube sortent aussi sur le réseau alternatif Framatube, sur une instance sur laquelle je suis actuellement qui s'appelle FabricTube. Donc tu peux retrouver ce lien pour t'abonner sur cette chaîne vidéo libre en peer-to-peer dans la description de la vidéo. Bon, alors moi, je suis ce que la télévision appelle un YouTuber, hein. Un nom assez barbare qui, bah d'ailleurs, que je ne revendique pas. On n'appelle pas les gens qui travaillent à la télévision des téléviseurs, hein. Alors YouTuber, non, c'est assez absurde. Plus sérieusement, depuis 4 ans que je travaille ici, j'ai fini par me professionnaliser au sein de plusieurs métiers, dont certains dans lesquels j'œuvrais avant YouTube, comme auteur ou comédien. Mais depuis, j'ai pu acquérir encore plus d'expérience et puis aussi devenir monteur ou encore scénariste. Plus tout un tas de choses qui rentrent dans le cadre flou de l'activité d'un YouTuber. De l'organisation d'un tournage, qui est une chose fort complexe, jusqu'aux travaux sérieux d'administration propres à tous ceux qu'on appelle des entrepreneurs. Encore un autre mot barbare, hein, que j'aime pas trop. Moi qui me considère que d'abord comme un artiste indépendant, engagé, mais en autoproduction, donc oui, c'est un peu... C'est hybride, c'est précaire, c'est l'ubérisation de la société, tout simplement. Voilà pour t'éclairer un peu rapidement l'envers du décor des vidéos que tu consommes ici, librement. Car si cela t'est encore possible aujourd'hui, ici en France, ce n'est pas le cas partout. Hein. Comme par exemple il y a 2 ans, quasi jour pour jour, le 11 juin 2018, aux USA, a été démantelée la neutralité du net. Pour faire bref, je t'explique, et c'est important pour le cadre de compréhension globale de ma démonstration. La neutralité du net est un principe qui nous permet l'usage et l'accès à Internet de manière libre, sans aucune discrimination. Hein, et donc du coup de tout le contenu diffusé sur la toile. Que ce soit ça, ça, ou encore ça.
Salut à toi, jeune entrepreneur.
Et mine de rien, c'est très important. Car à l'inverse, sans neutralité du net, les fournisseurs d'accès à Internet peuvent alors proposer des débits plus ou moins élevés en fonction de ce que nous sommes prêts à payer. Et ce débit vient alors conditionner l'Internet disponible, hein, forçant alors les utilisateurs à choisir en amont, lors de leur souscription d'abonnement, l'Internet qu'ils souhaitent consommer. Hein. Des séries, une messagerie ou de l'information Au Portugal, l'opérateur Meo propose des forfaits ne donnant accès qu'à ceci ou cela, en fonction des moyens financiers de l'utilisateur. Pareil en France, chez Red de SFR qui, en 2014, proposait des forfaits data mobile pour YouTube, et uniquement YouTube. C'est un peu comme si ton abonnement à la salle de sport te permettrait d'entraîner que tes épaules, et uniquement tes épaules. Ah, ça risque d'être un peu déséquilibré à la longue. Casser la neutralité du net, c'est dramatique. Car ça menace l'accès de manière égale à l'information, au divertissement, à tout ce qui est sur Internet. Et ça fait donc naître un Internet à plusieurs vitesses. Mais le principe de neutralité du net a longtemps demeuré une règle non écrite. Et si en 2018, aux USA, son écriture a été motivée par le fait de casser, l'abroger, en France ou encore aux Pays-Bas, tout récemment, là il y a quelques années, a été garantie dans la loi cette neutralité du net. N'empêche que c'est bien plus complexe que ça en a l'air, Internet et sa neutralité. Puisque Internet, c'est avant tout les GAFAM. Les GAFAM, c'est un acronyme qui veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Cinq géants d'Internet qui sont avant tout cinq géants états-uniens. Donc nés et basés dans une culture précise et aussi soumis à la loi des États-Unis. Enfin, théoriquement, puisque souvent, ils s'y soustraient. Les règles, la loi, sont écrites par les riches, puissants. Et imposé par la force, souvent, aux pauvres. Toi-même, tu sais. Donc, YouTube, là où nous sommes, là où mon travail est livré, disponible, fait partie de ces GAFAM, puisqu'il appartient, YouTube, à Google. Je crois pas te l'apprendre. Google, qui est, théoriquement, une entreprise comme une autre, qui doit se soumettre, normalement, à la loi de son pays, et aussi des pays dans lesquels Google fait son business, comme la France, par exemple. Mais si j'insiste sur les mots comme théoriquement et normalement, ce n'est pas par hasard. Prenons maintenant un exemple concret, le mien. J'ai écrit, réalisé et produit un document vidéo sur un fait d'actualité, au pif comme ça, la crise du Covid-19. Analysant l'actualité politique française sur le sujet, mais aussi la législation qui est en cours, donnant mon avis, interviewant quelques personnes, etc. Bref, classique. Je souhaite maintenant, tout naturellement, publier le résultat de mon travail. Au même titre qu'un éditorialiste à la télévision, qu'une journaliste dans la presse écrite, ou qu'un chroniqueur à la radio, par exemple, moi aussi, j'utilise un vecteur médiatique, un support. Pour eux, ce sera la télévision, un journal papier et la radio. Pour moi, c'est Internet. Froidement, techniquement, le travail et le fruit de ce dernier est sensiblement le même pour nous quatre. Sauf le cadre. Les trois premiers sont embauchés dans un média, pas moi. L'éditorialiste, la journaliste et le chroniqueur sont contractuellement liés avec leurs médias. Par exemple, BFM TV, Le Figaro et France Inter. Avec un salaire ou un cachet, mais aussi un cadre de protection sociale et surtout une ligne éditoriale, assumée ou non, qui change selon le média. Et c'est ça qui va nous intéresser ici. De mon côté, opérant sur YouTube, qui se présente comme une plateforme de diffusion de vidéos libres et surtout pas comme un média, on y reviendra plus tard, ma réalité professionnelle semble alors tout autre, radicalement différente, dénuée de liens de subordination avec mon éventuel employeur et surtout sans aucune ligne éditoriale imposée. La liberté. Sauf que c'est faux. Sur bien des aspects, YouTube a tout d'un média mais n'a aucun intérêt à le reconnaître. Reprenons l'exemple de mon document vidéo sur l'actualité autour de la crise du Covid-19. Après plusieurs jours de travail pour sa production, me voici prêt à le publier sur YouTube, la plateforme de diffusion libre. À cette étape de ma réflexion, de ma démonstration, je précise ce qui est important. Il faut savoir différencier le loisir du professionnel. Car comme tu sais, sur YouTube, chacun peut venir émettre, héberger des vidéos, librement. Par exemple de ses vacances en famille avec des amis ou de son groupe de musique en amateur. Mais cela n'empêche que sur ce même réseau travaillent des professionnels dans différents secteurs comme le divertissement, l'information, par exemple. Je suis un de ces professionnels. D'ailleurs, YouTube lui-même me reconnaît officiellement comme un partenaire. Et j'ai même des guillemets car c'est exactement le même mot de novlangue qui est utilisé quand on nomme un salarié collaborateur pour venir effacer le lien de subordination qui existe pourtant bien entre lui et son employeur. Sur YouTube, le programme partenaire YouTube, c'est comme ça qu'il l'appelle, est une sorte de contrat de travail. C'est un contrat d'ailleurs, réservé aux créateurs et aux créatrices de contenu vidéo enregistrant un certain nombre d'abonnés et de vues dans un laps de temps défini. Ce qui illustre parfaitement que pour atteindre cette éligibilité à avoir ce partenariat, ce contrat de travail avec YouTube, eh ben, il faut que tu atteignes cet objectif et donc ça veut dire que ben, tu travailles déjà à temps plein dans ce cadre. Ce programme, ce contrat, permet alors au dit partenaire de monétiser son travail en donnant le feu vert à YouTube pour qu'il place des publicités avant, pendant et ou après ses vidéos et ainsi générer des revenus. La publicité est, au même titre que dans bien d'autres médias, si ce n'est quasiment tous, le modèle économique de YouTube, et donc, de fait, celui des travailleurs et travailleuses y opérant. Et c'est là que les choses se gâtent. Dès lors que tu deviens partenaire YouTube, une sorte de collaborateur Google finalement, tes revenus sont conditionnés par les bons vouloirs du robot sombre de l'algorithme du réseau. Il analyse ton travail et, sur des critères plus ou moins flous, accepte ou non sa monétisation. Cela prend en général entre quelques minutes et plusieurs jours. Impossible, par exemple pour moi, qui traite souvent d'actualité politique et de politique en général, d'attendre plusieurs jours pour savoir si le robot accepte de monétiser mon travail et ainsi me garantir un revenu, aussi maigre soit-il, avant de rendre public une vidéo. Nous voici donc face à un constat du travail qui profite à la société Google, mais pas de salaire. Et encore moins une protection sociale, hein, pas trop en demander non plus. Le parallèle, et tu le verras au fur et à mesure de cette vidéo, peut être largement fait avec les livreurs à vélo ou les VTC Uber, etc. C'est la même chose en fait. C'est l'ubérisation, c'est la libéralisation du secteur du travail encore plus qu'il ne l'était jusqu'alors. Mais revenons à cet algorithme qui conditionne tout le travail sur YouTube. L'objectif ici pour Google et YouTube est d'éviter de reproduire le scandale d'il y a quelques années où avaient été alors placées des publicités avant des vidéos qui avaient, selon les annonceurs, terni leur image de marque. Annonceurs qui sont toujours un peu les mêmes, hein, bien que YouTube a commencé sa libéralisation du secteur publicitaire à l'image de Facebook, ça reste encore les mêmes. Ce sont des marques de voitures, des marques de jeux vidéo, de voyages en avion, de soda et autres opérateurs téléphoniques. Toujours pareil. Comme à la télévision, dis donc. Quel hasard. Je te le disais un peu plus tôt, YouTube s'acharne à s'affirmer comme une plateforme de distribution de vidéos libres. Et absolument pas comme un média. Car si YouTube était reconnu comme un média à part entière, ses obligations juridiques changeraient de tout au tout. Google serait alors responsable du contenu publié sur YouTube. Et il ne pourrait absolument plus nier le lien de subordination qu'il a envers les travailleurs de sa plateforme. Et si pour l'instant, le géant du web, Google, gère habilement ce flou qui lui est profitable, on peut quand même parfaitement parler d'une ligne éditoriale propre à YouTube qui est alors non pas imposée par lui, mais dictée par ses seuls annonceurs qui achètent les espaces publicitaires dans les vidéos de ses créateurs. Et je ne sais pas si tu le sais, c'est peut-être un détail d'ailleurs, mais les publicités que tu peux voir avant, pendant, après les vidéos, on ne les choisit pas. C'est-à-dire, c'est YouTube qui décide qui se met où. Nous, on dit OK et c'est tout. C'est YouTube qui décide quel annonceur va apparaître sur quelle vidéo. C'est le grand flou. Nouveauté. Depuis quelques semaines, en plus du robot, de l'algorithme que tu connais maintenant, sur YouTube, une nouvelle étape de validation apparaît et m'est imposée avant de publier mon travail. Et on se retrouve dans l'envers du décor, côté montage, côté post-production, sur YouTube où je suis prêt à mettre en ligne ma vidéo. Voilà à quoi ça ressemble quand je mets en ligne une vidéo, donc je vais l'appeler, voilà, là c'est le titre de la vidéo, tout simplement. Ici j'y mets la description, d'ailleurs c'est là où tu retrouves toutes les sources, tous les liens, les chapitrages, etc. Tu apportes une miniature par ici, bref, tu remplis les choses classiques, les informations destinées finalement au public. L'étape numéro 2 est celle qui nous intéresse, c'est celle qui concerne la génération de revenus, la monétisation, puisque c'est les modèles économiques de la plateforme YouTube sur laquelle je travaille. Alors forcément, on est poussé à activer pour pouvoir légitimement espérer un revenu. Alors on active la monétisation. Ici, plusieurs types d'annonces s'offrent à nous. Évidemment, moins tu en coches, moins tes revenus seront maximisés. Évidemment, donc tu coches toutes les cases. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de mystère. Et là, tu auras noté qu'une troisième étape, une étape de plus, c'est activer. Adéquation du contenu à la diffusion d'annonces. C'est l'étape d'après. Et c'est ici que tout se joue. Puisque ajouter au robot YouTube, qui lui dans tous les cas passera sur ton contenu pour pouvoir voir si ça colle avec les attentes des annonceurs, là on te demande à toi-même de répondre à une série de questions qui concernent le langage inapproprié, la violence, les actes dangereux ou pernicieux, les contenus réservés aux adultes, la drogue, l'incitation à la haine, intéressant. Bref, plein de choses, on va voir ça ensemble de manière rapide. Par exemple, langage inapproprié. Tu dois déclarer si tu utilises un langage grossier comme bordel, chier, etc. Grossièreté censurée au début de la vidéo ou dans le titre ou la miniature, bref, hein, dans tout ton contenu, hein, pas que dans ta vidéo. Utilisation occasionnelle de grossièreté plus marquée comme putain, etc. Un mot qu'on utilise malheureusement beaucoup. Ou un langage très vulgaire au début d'une vidéo, dans le titre ou la miniature, bref, dans ton travail. En le déclarant, tu vois tout de suite que les annonces seront limitées. Donc tes revenus seront limités. À aucun moment, YouTube te dira « tu n'auras pas d'annonce, pas de revenu ». Non, ils vont toujours rester dans la demi-mesure en te disant « oui » ou « peut-être ». Comme « annonce limitée », ça veut dire « peut-être hein, ». « Peut-être », ça veut dire « non » en fait, mais ils ne te le disent pas. Bon, on continue avec, par exemple, un contenu réservé aux adultes. Histoire d'amour ou baiser, discussion évoquant les relations amoureuses ou la sexualité, sans faire référence à des rapports sexuels. Ça, ok. Par contre, des parties du corps nues, floutées ou censurées, des parties du corps, donc même pour un but artistique ou pédagogique, non. Ça limite quand même, hein. Violence légère, blessure non sanglante ni choquante. Définissez-moi ce que ça veut dire une blessure non choquante. Ça, oui, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Blessure ou violence réelle avec sang visible dans le cadre de pratiques sportives, d'accidents, de canulars, bref, des manifestations, non. Tu vois, ça restreint énormément ton champ d'action. Passons sur les actes dangereux, le contenu relatif aux drogues, le contenu incitant à la haine, hein, Madame Avia. Bah, par exemple là, référence à des groupes marginalisés de manière non blessante. C'est quoi un groupe marginalisé? Qu'est-ce que c'est être blessant, non blessant? Dans le cadre d'un débat public ou d'un but humoristique. Contenu susceptible d'offenser des membres d'un groupe marginalisé. Allez, bah regarde, non, annonce limitée, enfin, c'est n'importe quoi. Et les sujets sensibles. Alors ça c'est marrant. Qu'est-ce que c'est un sujet sensible? Contenu évoquant des actes terroristes récents, des événements qui ont causé la perte, des pertes humaines catastrophiques. Qu'est-ce que c'est une perte humaine non catastrophique? Ou des questions sociales controversées? Eh ben non. Tu ne sais pas ce que c'est une question sociale controversée. Je sais pas moi, les gilets jaunes par exemple, ils ont pas marqué gilets jaunes. Hein. Par contre ils ont marqué Covid en dessous, tu vois. Analyse ou opinion concernant des sujets d'actualité graves non décrits dessus comme le Covid. Tout est... caser. Tu dois remplir des cases et forcément, les choix du créateur ou de la créatrice, comme moi je le suis face à mon ordinateur, je vois que tel choix éditorial va influencer ma capacité d'avoir un revenu et donc de pousser mon travail ou de vivre de mon travail légitimement, et ben je vois que c'est pas possible en traitant ceci et c'est possible en traitant cela, va venir pousser à la conformité. La conformité dictée par les annonceurs, donc par les multinationales qui achètent les espaces publicitaires, et qui va donc pousser toutes les créatrices et les créateurs de contenu, peu importe le contenu, ils passent tous par là, hein, pour correspondre aux annonceurs et espérer avoir un revenu. Comme on dit, une image vaut mille mots. Tu vois comme moi à l'instant que YouTube a une ligne éditoriale, YouTube est donc un média. Accablant, ouais. Surtout quand tu sais que YouTube est devenu, voire est en train de devenir, la plateforme d'information numéro 1 sur Internet, où les gens viennent chercher l'information, trouver, se faire une idée, nourrir leur esprit critique. C'est flippant. Bien sûr, chaque partenaire YouTube reste libre de refuser la monétisation de son travail. Hein ? Libre de travailler gratuitement. Sans revenu, aussi maigre soit-il, parce que c'est pas génial. Un travailleur à la carte, quoi. Un peu comme si un journaliste ou un artiste serait payé uniquement après validation de Audi, Carrefour et McDonald's, hein. Allez, il est beau le monde d'après, hein. Est alors clairement menacé, en danger, la liberté d'expression et la pluralité des opinions, des programmes qui influence politiquement des milliards d'auditeurs, d'utilisateurs de ce qui est la première plateforme de vidéos d'Internet. L'impact est énorme. Et ça a été maintes fois démontré. Bien que YouTube le nie officiellement très durement, une vidéo non monétisée, hein, même si elle rapporte rien à la personne, mais à partir du moment qu'elle n'est pas monétisée ou qu'elle est démonétisée, ou hors du programme partenaire YouTube, a un impact et une durée de vie amoindrie. Ce n'est pas systématique et des contre-exemples existent même sur ma chaîne. D'où l'illustration parfaite du flou artistique total qui règne sur la manière dont c'est géré. Mais ça reste un fait économiquement explicable, comme je suis en train de te l'expliquer, comme j'essaie de te l'expliquer dans cette démonstration. Et petit chiffre en passant, rien qu'en France, sur une seule année, ce sont 31 milliards d'euros qui sont dépensés par cette poignée d'annonceurs dans la publicité. C'est énorme! Et ça garantit un pouvoir politique, évidemment, puissant. Ils ont le droit de vie et de mort sur tout un tas de médias, sur YouTube, sur la TF1, sur BFM, tu te rends compte? Et les liens politiques qu'il y a après avec le financement des partis politiques, mais aussi des candidatures de personnes de milieu, je t'apprends rien, hein? Bref, cette ubérisation, cette libéralisation extrême du marché du travail dans son entièreté, car c'est bien de cela dont il s'agit là, en fait, le sujet central de cette vidéo, est une plaie qui est loin de s'abattre uniquement sur le monde malheureux des livreurs à vélo. Même l'information mainstream, hein, chez TF1, chez France Télévisions, etc., est touchée, comme on en parlait avec Dominique Pradalier dans un direct, donc que je te remets en lien juste au-dessus, et en dessous de la vidéo, où Dominique nous racontait que hier, un journaliste télé, par exemple, faisait son travail de journaliste télé. Un cadreur de cadreur, un monteur de monteur, un chauffeur de chauffeur, un éclairagiste, un preneur de son, bref, chaque métier demande des savoir-faire précis, complexes. Eh bien, aujourd'hui, on exige souvent d'un journaliste télé, par exemple, d'un pigiste, de faire tout seul. Hein? De trouver un sujet, de faire de l'investigation, d'écrire, de cadrer, de tourner, de présenter, de monter, de livrer, tout. Et toujours plus vite. Alors forcément, où est-ce qu'on peut gagner du temps? Eh bien, sur le journalisme, puisqu'on ne pourra pas bâcler son montage, ni aller plus vite pour rouler, pour pouvoir cadrer, non. Donc c'est là que ça sera. Donc tu vois, le danger est présent partout, uniquement à cause d'un effet économique. Sur YouTube, c'est pire encore, hein, où se côtoient à la fois des YouTubeurs comme moi et des personnes dans le divertissement, dans les tutos make-up, les machins, où les placements de produits vont dans tous les sens parce que bah, c'est tellement précarisé. C'est une fuite en avant qui va toujours de plus en plus vite. Hein, et qui est motivé, qui est nourri par ce système économique prédateur que tu connais, le capitalisme, qui pousse à une création, une information toujours plus formatée, toujours plus médiocre, toujours plus rentable, qui rentre dans les cases préformatées des annonceurs pour vendre. Nul besoin alors des lois liberticides, anti-fake news, anti-haine, comme la loi dite Avia, on en a parlé en vidéo il y a quelques semaines ici, pour que s'impose une sorte de dictature de la pensée partout. Partout où le capitalisme régit la société humaine. Tu l'auras compris, surtout si tu me suis ici depuis un moment déjà, la source du problème n'est pas le méchant YouTube ou la vilaine loi liberticide. Non, ça, ce ne sont que des problèmes qui s'ajoutent comme des affluents à un fleuve déjà ravageur qui se nommerait capitalisme. La lutte contre lui et contre les injustices qu'il provoque dure depuis longtemps et perdurera aussi longtemps que nous serons là, debout, à exiger un monde meilleur, un avenir durable pour tout le monde et exiger la paix et la justice. Mais en attendant l'idéal des jours heureux retrouvés, il faut chaque jour défendre le moindre bout de terrain face à l'ennemi. C'est évident. Et de mon côté, pour continuer à travailler librement, j'ai fait ce choix, enfin ce choix, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi de par mon travail et mes valeurs, de ne compter que sur mon audience, sur le soutien financier de vous, de toi là qui me regarde, sur jimil.fr/soutenir. Mais aussi, de manière très très satellitaire, le partenariat de production, comme je l'ai fait avec ILEC en février dernier.
Hop hop hop, minute papillon, hein ? Ne serait-ce pas là un placement de produit ?
C'est très rare car tout simplement trouver et organiser un partenariat en phase avec les valeurs politiques que je défends est un véritable défi. Et que même si je reste ici maître des conditions de partenariat, ça reste tout de même une charge de travail en plus et une contrainte.
Oui, alors revenons à nos moutons électriques si vous voulez bien ma chère Mireille Agathe. Je vais vous répondre en étant tout à fait transparent. Oh, il parle déjà comme un politicien, hein ? C'est mal barré cette affaire, hein ?
Il va sans dire, surtout à toi, cher internaute, que notre avenir est incertain. Que la législation se montre de plus en plus liberticide sans avoir besoin de déménager en Chine ou en Corée du Nord. Avec ma démonstration vidéo ici qui touche à sa fin, que j'espère claire, tu auras compris que même sur YouTube, territoire libre et joyeux où tout le monde il est gentil.
Tout le monde il est bon.
Ce n'est en réalité qu'un trompe-l'œil, un mirage, car il n'y a pas de miracle. La création, tout comme l'information, a un coût. Ce n'est pas gratuit, et quand cela semble l'être, c'est que c'est toi le produit. Pour financer la création artistique ou l'information sur YouTube, il y aurait trois méthodes. 1. Prélever un impôt ou une taxe nationale. Mais dans un monde libre, l'intervention de l'État ou d'une institution, une organisation publique comme moteur est très mal perçue. Hein. C'est le marché qui doit dominer, contrôler, piloter la société avec sa main invisible. Pourtant, le modèle du CNC, qui finance la diversité culturelle depuis longtemps en France en prélevant des taxes dans le milieu du cinéma étendu, est vertueux et ne coûte rien à la collectivité. Un peu comme le système indépendant et bénéficiaire de l'intermittence du spectacle. C'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Deuxième méthode, rendre l'accès payant via un abonnement mensuel. L'abonnement payant à un service est une solution efficace, mais inégalitaire. Et là, c'est le grand public, le consommateur habitué à l'abondance de contenu gratuit qui n'est pas d'accord de devoir payer, et donc de devoir choisir. Car bien que l'abonnement mensuel peut permettre l'indépendance et l'équilibre financier d'un service, ça demande à l'usager de cumuler plusieurs abonnements payants pour jouir d'une certaine diversité. Hein. Un abonnement à YouTube Premium par ici, à Spotify pour la musique, à Netflix pour le cinéma, à machin, un truc à bidule, et à la fin, ben, ça coûte un bras et on n'a pas tous accès à la même chose. Reste donc la sacro-sainte publicité. Le modèle économique préféré des médias, car simple et aussi permet d'éviter les deux précédentes méthodes, hein, malgré, bah, comme on l'a vu dans cette vidéo, tous les conflits d'intérêts et les dangers encourus par la liberté d'expression alors aux mains des multinationales qui achètent les espaces publicitaires. Le pire, c'est que ce modèle économique, entièrement basé sur la surconsommation infinie, est instable, on l'a vu lors de l'épisode du Covid-19 et qu'on traverse encore, et est souvent insuffisant. Il n'est pas rare que des aides financières publiques, c'est même courant, viennent le compléter, ce modèle économique publicitaire. C'est quand même le comble. De plus, la publicité nous est présentée comme inoffensive, alors qu'elle est un véritable fléau s'immisçant dans toutes les strates de la société, avec des impacts néfastes bien réels. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pour ma part, je n'abandonne pas, et je continuerai mon travail à temps plein, ici sur YouTube, en parallèle, sur Peertube, et surtout en dehors de ce système économique basé sur la publicité. Malgré les risques d'invisibilisation de mon travail, je vais devoir m'adapter, jongler avec ce que je peux, comme par exemple en développant un peu plus mon site internet jemil.fr. Aussi, la création en mars dernier de l'association Mille et une choses qui permet de récolter vos dons, ponctuels ou réguliers, soit direct à travers des chèques, mais aussi des virements, ou via les plateformes Utip, PayPal, Tipeee, etc., rend concrètement possible la production de contenu sur cette chaîne et le financement de mon intermittence qui me garantit un revenu minimum. Alors oui, c'est fragile, c'est précaire, mais c'est une chance que je sais apprécier. Alors pour ça, mille merci. Bon voilà, j'espère que cette vidéo aura su être utile ou au minimum intéressante. Le sujet est éminemment complexe, mais nous concerne tous, puisqu'il s'agit ici de l'avenir de notre accès au savoir et de notre libre expression. Donc, de notre avenir tout court. Comme d'habitude, retrouve toutes les sources, les liens utiles et détails dans la description à dérouler sous la vidéo. Vidéo que je t'encourage à partager, commenter, liker et aussi, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi sur YouTube et sur Peertube. Moi, je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite ici pour une prochaine vidéo et aussi sur le terrain physique pour la suite des luttes que nous menons. On lâche rien. Ciao !Something happy in my ear. Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips had dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold for a boat and stream. They have their minds made
up I know we're never gonna show them how a love doesn't falter. Laid up on the altar of time.
about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself.
C'est l'histoire d'une autruche aveugle qui prenait le goudron pour du sable. Bonjour. Commençons par une grande nouvelle. Tandis que le nombre de vertébrés sauvages sur Terre a diminué de 60% entre 1970 et 2014, l'humanité n'a jamais extrait autant de pétrole qu'aujourd'hui. Bravo ! Au mois d'août 2018, la production mondiale a dépassé les 100 millions de barils par jour. Les pays de l'OPEP, notamment, ont pompé fort avec 32,5 millions de barils quotidiens sur ce seul mois d'août. Mais le champion toute catégorie, ce sont les États-Unis et leur juteux pétrole de schiste issu des entrailles du Texas. Avec 10,9 millions de barils par jour, le pays à la bannière étoilée est ainsi devenu le premier producteur mondial devant la Russie et l'Arabie Saoudite. Make mazout great again. En Europe, les émissions de CO2 ont augmenté de 1,8% en 2017. Une hausse en partie due aux sécheresses à répétition, pas de bol, notamment dans le sud de l'Europe qui oblige à préférer le charbon à l'énergie hydraulique bien moins efficace quand il n'y a plus d'eau. Mais tout va bien, ce n'est qu'une moyenne sur 28 pays. En France, par exemple, les émissions de CO2 ont grimpé de 3,2%. Champion. Entre 2014 et 2017, nos émissions liées au secteur de l'énergie sont passées de 15,8 millions de tonnes à 27,8 millions de tonnes de CO2. Presque le double. Là encore, des milliards de gouttes d'eau sont responsables. Elles ont refusé de tomber. Pendant ce temps, en 2017, les pertes des assurances liées aux catastrophes naturelles ont atteint 337 milliards de dollars. Presque le double de l'année précédente. Second record de tous les temps. Les feux de forêt sont en bonne position avec 14 milliards à eux seuls. Au Portugal, fortes températures et vents violents ont provoqué des incendies incontrôlables. Dans le pays, le nombre d'hectares partis en fumée en 2017 représente ainsi 53 fois la moyenne annuelle des 10 dernières années. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la part du charbon dans le mix énergétique devrait décliner entre 2016 et 2022, passant de 27% à 26%. Gros effort. Et puis, comme le rappellent l'OCDE, l'ONU et la Banque mondiale, dans un rapport commun, nos États continuent à dépenser près de 500 milliards de dollars par an pour financer le pétrole, le charbon et le gaz. Ah oui, j'oubliais. Sur les 180 signataires de l'accord de Paris, ratifié en 2015, seuls 9 ont présenté leur plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. 5%. C'est le rush. Mais ne soyons pas pessimistes. Singapour a décidé de déclarer l'année 2018 année de l'action climatique. Voilà une belle initiative. Sauf que ces 5 dernières années, DBS, OCBC et UOB, les 3 grandes banques du pays, ont financé 21 projets de centrales à charbon, principalement en Indonésie et en Australie, pour un total de 2,3 milliards de dollars. Les intentions des uns sont vite balayées par les actions des autres. Nous voilà en plein carbone lock-in syndrome. Il caractérise tous les investissements qui nous enchaînent à moyen ou long terme aux énergies fossiles. Pile ce qu'il nous faut. C'est le cas des infrastructures qui favorisent l'automobile, par exemple, comme les autoroutes, ou bien des centrales à charbon qui ont une durée de vie moyenne de 45 ans. Ainsi, l'ensemble des centrales actuellement en projet autour du globe vont entraîner 200 gigatonnes d'émissions de CO2 supplémentaires dans les décennies à venir. En 2002, le scientifique Paul Crutzen posait dans la revue Nature le terme d'anthropocène, littéralement l'ère de l'homme. Avec la machine à vapeur, puis la maîtrise des énergies fossiles, l'humanité serait devenue le principal facteur de modification de la planète, faisant entrer la Terre dans une nouvelle ère géologique. Tout cela ayant bien sûr commencé il y a des millénaires avec la maîtrise du feu. Posséder la nature serait presque un trait génétique. Bah voyons. Au début du 21e siècle, les 45% des humains les plus pauvres de la planète produisaient 7% des émissions. Mais les 7% les plus riches en produisaient 50%. 2 milliards de personnes, près d'un tiers de cette humanité, n'ont pas accès à l'électricité. L'anthropocène n'est pas le fait de l'humanité, mais d'une infime part. Et la démographie ? Remettons les choses à leur place. Entre 1820 et 2010, la population a été multipliée par 6,6. Sur la même période, les émissions de CO2 ont été multipliées par presque 655. Il y a donc autre chose qu'une simple question d'un nombre de naissances. L'état de la planète est lié à nos choix de société. Des choix pris par certains, industriels, financiers, gouvernants, qui ont trop rarement demandé leur avis au reste de l'humanité. C'est ainsi. Mais peut-être est-il temps de faire autrement, car on a rarement vu un dealer bien gérer une cure de désintox.
Alice Baya, première.
Alice Baya, je suis chercheuse à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, donc l'IRIS, à Paris. Le problème climatique aujourd'hui, c'est que les pays qui sont les plus responsables sont aussi les moins volontaires pour agir sur le problème. Parce que ça va remettre en cause leur mode de consommation, leur mode de production, l'intégralité finalement du fonctionnement des sociétés de ces pays industrialisés. Donc on a un manque de volonté politique extrêmement important dans ces pays que même finalement la mobilisation des sociétés civiles ne parvient pas réellement à changer ou à enrayer dans ces sociétés. En 2015, la France s'est engagée à réduire à peu près de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Or, on voit bien aujourd'hui, et il y a des évaluations récentes qui ont été faites, que en fait, les émissions de gaz à effet de serre de la France dans les principaux secteurs, c'est-à-dire le bâtiment, la construction, les transports, sont en fait en hausse constante depuis 2015. Donc on est très loin en fait des engagements, ou en tout cas du respect des engagements français pris en 2015, puisque loin de réduire ses émissions dans les principaux secteurs polluants, la France est encore au contraire en train d'accroître ses émissions dans ses principaux secteurs. Donc on voit bien le décalage entre les belles promesses, si je peux dire, qui sont faites à l'international par le président Emmanuel Macron et les décisions qui sont prises à l'échelle nationale, qui continuent à privilégier certaines énergies fossiles au détriment d'investissements beaucoup plus massifs dans le secteur, par exemple, des énergies renouvelables. Ce qui est intéressant, c'est que si on déplace le regard et qu'on va voir ce qui se passe cette fois plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire là, chez les pays les plus vulnérables, cette volonté politique, elle est beaucoup plus présente. L'une des pierres d'achoppement des négociations internationales sur le climat, on le sait, c'est la question du financement. Les pays les plus vulnérables, conscients que s'ils devaient attendre cette aide internationale qui leur est promise depuis des années pour s'adapter au changement climatique, allait arriver probablement trop tard pour eux. Certains d'entre eux ont décidé finalement de mettre leurs propres moyens, aussi limités soient-ils, sur la table. Ce qui peut être d'ailleurs une bonne leçon à donner finalement au reste du monde et à ces pays développés où on a souvent tendance à nous dire qu'il faut énormément de moyens pour lutter contre le changement climatique et qu'on n'a pas ces moyens. On voit que dans des pays, encore une fois, comme le Bangladesh, avec des moyens extrêmement réduits, on a quand même néanmoins décidé d'agir. Le Bangladesh, pour ne donner que cet exemple-là, a créé dès 2009 le premier fonds dédié à la lutte contre le changement climatique sur le territoire national, alimenté à 100% par les fonds propres du gouvernement. Ce qui veut dire que le Bangladesh a décidé de ne pas attendre l'argent international pour commencer à mettre en place des programmes d'adaptation au changement climatique sur son territoire. Et cette initiative, aujourd'hui, elle a été reprise par des pays comme le Soudan, comme l'Éthiopie, comme le Kenya et d'autres pays aussi en Asie qui ont tous, petit à petit, décidé de mettre en place leurs propres fonds. Et si on reprend l'exemple du Bangladesh, ce fonds, il a été alimenté entre 2009 et 2015, grosso modo, à hauteur de 400 millions de dollars américains. Et si on le compare avec le fonds multi-bailleur qui existe également au Bangladesh, qui lui est alimenté par les bailleurs de fonds internationaux pour lutter également contre les impacts du changement climatique, sur la même période, il était alimenté à moins de 200 millions de dollars américains. Donc on voit bien là qu'un des pays les plus pauvres et les plus vulnérables arrive malgré tout à mettre deux fois plus d'argent que les pays industrialisés qui sont censés s'être engagés à aider des pays comme le Bangladesh à lutter contre les impacts du changement climatique. Une autre stratégie qu'on commence à voir se déployer aujourd'hui, c'est d'aller regarder du côté du droit. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités juridiques de faire pression sur les États ? Alors, il n'y a pas encore de précédent juridique, mais peut-être qu'il faudrait réussir à en créer un, et ça pourrait être un objectif collectif de vouloir, en fait, amener nos gouvernements devant les tribunaux, et donc de mettre en place ce qu'on appelle les tribunaux climatiques, et en tout cas d'aller questionner la responsabilité juridique de nos États par rapport à certaines de leurs décisions, dont on sait qu'elles vont avoir des conséquences environnementales extrêmement négatives. Quand il y a par exemple le choix d'implanter une nouvelle centrale ou une nouvelle entreprise aux effets environnementaux catastrophiques, est-ce qu'on n'a pas la capacité ou la possibilité de porter en fait ce dossier devant les tribunaux pour contraindre nos gouvernements à renoncer à certains projets dont les conséquences environnementales vont être désastreuses? On peut aussi le faire pour les entreprises privées. Il est possible aujourd'hui, et il y a eu des cas notamment en Inde, où on a amené des entreprises devant les tribunaux pour les faire renoncer à certains projets d'implantation d'usines ou de pollution environnementale provoquée par les activités industrielles de tel ou tel acteur. Donc l'usage du droit, je pense, peut être un outil de plus en plus mobilisé dans le futur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a aussi besoin que le droit accompagne les citoyens par l'adoption de nouvelles lois et de nouveaux instruments juridiques qui vont permettre de doter en fait, ces citoyens de plus en plus d'outils qu'ils vont pouvoir mobiliser pour eux faire pression sur les États ou les entreprises. Donc on a besoin à la fois de nous solliciter davantage le droit, mais aussi que les acteurs juridiques nous dotent de nouveaux outils pour pouvoir faire pression sur les États. Les lobbies les lobbies, alors qu'ils soient pétroliers ou autres, le paradoxe, c'est qu'effectivement, ce sont les plus écoutés par les États, alors même qu'ils représentent les intérêts des plus pollueurs, de ceux qui sont les premiers responsables du problème climatique. Et donc là, on a une sorte d'aberration. Ce discours est aussi le discours le plus influent aujourd'hui et celui qui continue à être le plus écouté par les États, qui sont aussi les États dans les négociations qui ont le plus de capacité à influencer ce processus de négociation. Donc on voit bien à partir de là que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et pourquoi est-ce que résoudre cette crise climatique aujourd'hui, c'est extrêmement complexe, parce que c'est complètement grippé par les intérêts politiques et économiques d'un petit nombre d'acteurs, mais qui continuent à être les acteurs les plus puissants, en tout cas aujourd'hui sur la scène internationale.
Et voilà un petit data gueule, 83e épisode que vous pouvez retrouver via leur site de chaîne de vidéo peertube.datagueule.tv. Il y en a tout plein là-dessus. Mais voilà, c'était pour faire le pont avec un problème de YouTube qui ne veut pas vraiment s'afficher comme un éditeur de contenu, qui finance ceci, ne finance pas cela, cherche tout plein de pubs. Et voilà, que le problème de ce petit serpent capitaliste qui se mord la queue quand il ne se la suce pas, c'est bien sûr que ça use par contre la nature, et le climat effectivement prend plein la tronche. Donc si d'une autre manière on pouvait non pas résoudre le problème du capital, mais en tout cas imaginer d'autres formes de financement, eh bien je nous enverrais bien encore pour la petite vingtaine de minutes qui nous reste dans le source de ce vendredi. Du côté des rencontres mondiales du logiciel libre de 2017, elles se déroulaient à Saint-Étienne, et donc c'est pendant 4-5 jours une grande fête du libre sous tous ses aspects, sous tous ses genres, pour tout public. Il y a des affaires du geek, il y a des affaires de famille, d'enfants, pour les petits et les grands, et tout cela se met bien. Et donc si l'échange est libre, où en est la monnaie libre? C'est Cédric Moreau, alias CGeek, développeur de 29 ans, ingénieur de formation. Ses premières années d'emploi sont l'occasion de clairement remarquer le pouvoir colossal et décisif de la monnaie. À cette occasion, quelques recherches lui font découvrir le concept de monnaie libre, défini et découverte par un autre ingénieur, Stéphane Laborde. Ainsi, depuis l'été 2012, Cédric passe l'essentiel de son temps libre au développement d'une monnaie libre peer-to-peer, propulsée par le logiciel libre créé dans ce but d'Uniteur. Nous n'aurons pas le plaisir d'écouter tout jusqu'au bout, mais sinon on la repassera à un autre moment.
Des rencontres mondiales du logiciel libre 2017, dont le fil rouge est libre-échange. Alors libre-échange, c'est l'idée du libre associée alors ici au changement, mais bien sûr il y a un jeu de mots avec le libre-échange, avec l'économie. Le logiciel libre a démarré sans cet aspect-là, mais aujourd'hui je vais vous en parler un petit peu. Alors pourquoi? Parce que bien, c'est un peu dommage, on va dire, depuis le temps que le logiciel libre existe, de se battre pour les libertés individuelles, pour l'accès au logiciel, pour l'accès à un Internet libre, à des données libres, mais à côté de ça, de mettre ses libertés économiques au placard. Parce que, bien sûr, économiquement, c'est comme ça qu'est produit le logiciel libre. C'est par une activité économique. Donc, étant donné que le thème, c'est libre-échange, moi, je vais vous demander, si l'échange, il est libre, pourquoi pas, après tout? Bien, où est la monnaie libre? Alors, bien sûr, il y en a quelques-uns qu'on a entendu parler, mais aujourd'hui, je vais vous donner un peu plus d'informations sur ce qu'est une monnaie libre. Alors, on va juste reprendre l'exemple du libre associé à l'échange. Donc, c'est l'idée que dans un pays A, depuis lequel transitent des marchandises jusqu'à un pays B, eh bien, l'échange est considéré non libre si jamais les marchandises doivent passer par une douane qui appliquerait une taxe qui freinerait l'échange, si vous voulez. Ou par une douane qui immobiliserait les marchandises sous couvert des règles de chaque pays. Donc dans ce cas-là, l'échange est considéré non libre. Alors c'est une définition, hein, c'est pas la définition, mais il y a des gens qui ont défini l'échange libre. La même idée avec le logiciel. Bon, les RMLL 2017, la plupart d'entre vous sont un peu au fait de ça. Mais c'est l'idée que c'est non pas le logiciel qui est libre, mais bien l'utilisateur. De même que tout à l'heure, c'était bien l'utilisateur, en l'occurrence des entreprises et un consommateur, qui était libre de faire leur échange. Bien là, c'est l'idée que l'utilisateur est libre d'utiliser son logiciel avec certaines libertés. Et alors pour la monnaie, quelles pourraient bien être les libertés? Et puis pour quelles conséquences? C'est surtout ça qui est important. Alors déjà, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'une monnaie, c'est pas comme un logiciel, de la même manière qu'un échange n'est pas la monnaie, ni non plus le logiciel. Les libertés logicielles sont définies dans le logiciel libre, et pour la monnaie libre, eh bien, c'est des libertés différentes. Ce sont des libertés économiques. Les libertés logicielles sont définies par la Free Software Foundation, tandis que les libertés économiques, eh bien, c'est nouveau, hein, c'est depuis 2011, hein, que ces libertés économiques ont été définies dans un ouvrage, la TRM. Vous aurez un lien en fin de diaporama. Et alors quelque chose de fondamental qui est à comprendre, c'est que de la même manière que, mettons, en mathématiques, vous avez des théorèmes qui sont impliqués par des axiomes. Bien de la même façon, un logiciel libre, les libertés qui sont définies dans le logiciel libre impliquent une certaine forme pour le logiciel. Par exemple, pas de verrou. Quand je lance mon logiciel, si j'ai un verrou qui m'empêche d'utiliser mon logiciel, bien le logiciel n'est pas libre. De la même manière, une monnaie libre, elle a une forme. C'est cette forme que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, que vous sachiez reconnaître, différencier une monnaie libre d'une monnaie non libre. Et quelle est la forme fondamentale d'une monnaie libre? C'est d'avoir un dividende universel, avec un taux de croissance de la monnaie qui respecte certains critères. Et le lien inverse, bien sûr, c'est que si on est capable de définir ce qu'est un logiciel libre ou une monnaie libre, on est capable de définir ce qu'est un logiciel non libre ou une monnaie non libre. Donc typiquement, si mon logiciel est verrouillé, c'est pas un logiciel libre. Et si ma monnaie n'a pas de dividende universel, bah bien sûr, c'est pas une monnaie libre non plus. Ou si son taux est incorrect. On parle bien de liberté, non pas de bien et de mal. Faut bien comprendre ça, c'est que le logiciel libre n'est pas mieux de façon absolue qu'un logiciel non libre, c'est juste qu'un logiciel libre respecte des libertés qui ont été définies. Donc là, on n'est pas dans le jugement de valeur, ça c'est laissé à chacun ensuite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les libertés. Alors voilà, concrètement, à quoi ça ressemble une monnaie libre? Je vous dis dividende universel, ça vous parle peut-être un petit peu, mais techniquement, qu'est-ce que c'est? Alors imaginons que 5 personnes décident de faire une monnaie libre ensemble. Mettons, voilà, 4 personnes dans cette salle avec moi, nous décidons de produire une monnaie libre. Alors ça a certains paramètres. Par exemple, il faut connaître faut définir un montant initial du dividende universel, peu importe sa valeur, mais il faut en donner une. Un taux de croissance, et puis une formule pour le dividende universel. À partir de là, on va pouvoir créer la monnaie. Alors déjà, je vous dis créer la monnaie. Vous êtes venu à une conférence sur la monnaie, peut-être que vous avez déjà une certaine connaissance de comment fonctionne la monnaie euro ou le bitcoin. Peut-être pas, si ce n'est pas le cas, ça va être un petit peu délicat à suivre, mais c'est pas grave. Dans une monnaie libre, est-ce que c'est, mettons, I1, un banquier en euros qui va créer toute la monnaie? Et I2 jusqu'à I5, rien créé? Non, c'est pas le cas. Est-ce que c'est comme dans Bitcoin, où finalement I2, I4 et I5 auraient toute la puissance machine nécessaire et pourraient créer tous les bitcoins? Ben non, c'est pas le cas d'une monnaie libre. Dans une monnaie libre, on définit donc un dividende universel ainsi qu'une périodicité de la création de ce dividende. Donc mettons qu'en 2017, on s'accorde pour créer une monnaie libre. 1er janvier 2018, ça y est, on démarre notre monnaie libre. Bien, comment ça marche? Eh bien, chacun d'entre nous, les 5 individus qui avons décidé de faire une monnaie libre ensemble, on va créer les 10 unités que j'avais définies au départ. Chacun crée sa part de monnaie. Et ce, sans aucune contrainte de production, ou de je ne sais quoi, ou de couleur de peau, ou enfin, on s'en fout, quoi. Non, c'est chacun crée sa part de monnaie, point. C'est pas de la charité, hein. C'est respecter des libertés. Donc on peut voir ici que donc on a chacun des individus qui a plus 10, et qui arrive à un solde de 10 au final. Donc on a une masse monétaire M qui est égale à 50. Si on divise cette masse par le nombre de personnes qui créent la monnaie, ça fait 10. Il y a une petite formule en dessous que je vous invite à suivre des yeux, je vous l'expliquerai après. On arrive au 1er janvier 2019, on recommence. Solde 20. Alors vous voyez qu'on crée de la monnaie de façon perpétuelle. Voilà, 1er janvier 2020, on recrée encore 10. Les comptes montent. Donc c'est déjà une différence fondamentale par rapport aux monnaies que vous pouvez connaître. Par exemple à l'euro que vous ne créez pas, mais que vous avez besoin d'aller chercher auprès d'un employeur qui lui a des euros, qu'il a lui-même obtenu par un échange, qui lui-même finalement, si vous continuez la boucle, a été créé à un moment par le crédit, par une banque. Par exemple j'ai vu là sur le dépliant des RMLL, il y a bien une banque à la fin qui prête. Elle vous dit qu'elle prête, elle prête pas, elle fait un crédit. Alors on avance dans le temps, T égale 11, on arrive à un solde de 210 par personne. Alors là on a fait des simulations où il n'y avait aucun échange. On va en faire un juste après. Mais c'est pour vous faire remarquer une chose. On a un taux de 10% fois la masse monétaire par membre, on arrive à 11. C'est la première fois depuis le début de la monnaie qui, je vous rappelle, a démarré en 2018. Ça fait 10 ans. Et bien pour la première fois, le montant du dividende universel va changer. Donc cette fois-ci, chacun des individus ne va pas créer 10 unités, mais 11. Ça, c'est un autre aspect de la monnaie libre, du dividende universel, c'est que le montant n'est pas fixe dans le temps. Parce que c'est pas pareil de créer 10 unités quand il y a 600 de monnaie, que 10 unités quand il y a 1 million de monnaie. Ça n'a... La part de monnaie qu'on a créée est ridicule dans ce cas-là. Donc le dividende s'adapte, c'est la formule que vous voyez là. On prend la plus grande valeur entre le dividende précédent, qui était de 10, et sa nouvelle valeur, qui était de 11, dans la diapo précédente. Et là, vous voyez marqué 12, c'est la prochaine valeur calculée. La valeur évolue dans le temps. C'est-à-dire le montant, la quantité d'unités que vous allez créer varie. Mais c'est pas pour rien, c'est pas par hasard, c'est pas juste, on s'est dit tiens, et si on faisait monter? Non, non, c'est pas ça. Donc on continue, année 13, tiens, on a un sixième individu qui vient de rentrer dans l'économie, dans la monnaie. Alors il peut s'agir d'un nouveau-né, parce que comme vous le savez, les hommes naissent et meurent, les humains. Et donc il pourrait y avoir, je sais pas, là on est en 2030, 13 années après le début, il voudrait lui aussi créer sa part de monnaie. Est-ce qu'il va créer 10? Est-ce qu'il va créer 1? Est-ce qu'il va créer 8? Est-ce qu'il va créer 20? Non. On crée tous la même part, à chaque instant. Mais comme il arrive en cours de route, eh bien il crée la même part qui est de 12. Vous voyez, c'est ça une monnaie libre. C'est une monnaie qui se crée perpétuellement. Là, j'ai mis des exemples à un an, mais c'est pas tous les ans qu'on crée la monnaie. Nous, la June qui existe aujourd'hui, on crée ça tous les jours. Et quelque chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la valeur, cette fois-ci, elle est de 11 alors qu'elle était de 12 tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a diminué. Pourquoi? Parce que c'est divisé par N. Et donc, comme il y a une sixième personne qui est arrivée, la part de monnaie par membre a aussi diminué, comme un camembert qui était divisé en 5, ben maintenant il est divisé en 6. Et donc, dans ce cas-là, le dividende universel, qu'est-ce qu'il fait? On a dit qu'on prenait la plus grande valeur entre la précédente et la nouvelle calculée, donc on va continuer à créer 12. Alors on reste sur la même année, mais mettons en juillet. I2 part en vacances et il voudrait des services de I4. Ils font un échange. Je sais pas, moi, il lui loue un petit terrain pour faire du camping. Bon, bah voilà, 83 unités de monnaie libre payées à I4, qui est donc à un solde plus élevé que les autres, qui ont 133, ceux qui sont là depuis le début. Il a 216, tandis que lui a 50, puisqu'il a fait un transfert de monnaie. Rien de compliqué là-dedans. Ici, lui, il a son solde de 12, puisqu'il est arrivé cette année. On continue. Est-ce que, parce que I2 et I4 auraient fait un échange, est-ce qu'on arrêterait pour autant de créer de la monnaie? Est-ce que I2 ou I4 créeraient plus de monnaie que l'autre? Non. On continue, on crée de la monnaie perpétuellement, indépendamment des échanges. On ne fait pas de la redistribution là. On crée. On ne fait que de la création. 12 unités de monnaie en plus sur chaque compte. T égale 15, année 15, on continue. On a encore un plus 12 de monnaie. Mais là, vous commencez à voir une chose, c'est que la valeur échange là. Ça y est, on a atteint un moment où on a créé suffisamment de monnaie pour que le dividende continue d'augmenter. Donc année suivante, 14. Et voilà, vous voyez les comptes qui continuent à monter. Encore un coup, je crois. Non, non, là, on va trop vite. T égale 16. Voilà, on a encore 14 unités et on voit bien que ça va monter à 15. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous commencez à sentir là. Est-ce que la différence, enfin les 83 unités qui ont transité de I2 vers I4, est-ce qu'elles ont le même poids maintenant, en 2033, qu'elles ne l'avaient il y a 3 années, où il y avait moins de monnaie dans l'économie et où le dividende était moindre? Eh bien, on pourrait commencer à sentir que bah, l'échange, finalement, c'est un peu comme s'il avait disparu. Un petit peu, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même, il y a toujours le décalage de 83 unités x 2, donc ça fait 166. Il y a 166 unités de décalage entre les deux. Mais, par rapport à ce que chacun a sur son compte, ça commence à être moindre. De même manière que ici, ce qui est arrivé plus tard, bah, il commence à les rejoindre. Hein. Moi j'ai ce sentiment-là. Alors on va vérifier 37 ans plus tard. En supposant que personne ne fasse d'échange, comment est-ce qu'évoluent les comptes? Bon, déjà, le dividende, il est à 464 unités. C'est pas du jour au lendemain. Hein. 37 ans, quand même, qui se sont passés, là. Ils sont à peu près tous à 5100, plus ou moins 100 unités. Alors, est-ce que, finalement, le décalage qu'il y avait au début, est-ce qu'on le ressent encore 40 ans plus tard? Moi, j'ai l'impression que pas vraiment. Et c'est une propriété, un résultat fondamental de la monnaie libre, de gommer les décalages qu'il y a eu dans le temps. Pas de façon immédiate, sans faire de redistribution, mais simplement en créant de la monnaie. Pas besoin d'aller chercher dans un paradis fiscal qui va de toute façon vous jeter à la porte quand vous essayerez d'aller choper l'argent qu'il y a dedans. N'est pas besoin, il suffit de créer. Hein. Alors on va vérifier ça graphiquement. Au début, nos individus I1 à I5, ils se confondent un peu les 13 premières années. Là, on peut voir qu'il y a l'échange entre I2 et I4, I2 qui baisse un petit peu, puisqu'il a donné 83 unités de monnaie, tandis qu'I4 a reçu les 83 unités. Et si on avance dans le temps, on voit bien. On voit bien qu'ils ont à peu près tous 5000 unités de monnaie. Alors il y a toujours une différence. Mais est-ce que la différence que vous voyez là, en proportion, est-ce qu'il y a vraiment un décalage fondamental entre tous? D'ailleurs, on a même ici ce qui était ici, là, qui démarrait, qui avait zéro, et arrivé à 53 années de création de monnaie, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai décalage? Ben, c'est à vous de me le dire, mais moi je trouve que il n'y a pas une grande différence. Alors il peut se passer d'autres choses aussi hein, dans une monnaie libre, puisque comme je vous disais, les humains naissent et meurent, on pourrait imaginer que I3 à un moment, bah il part, voilà, il va dans un autre monde, hein, il a autre chose à faire maintenant. À son compte, lui, il va arrêter la création de dividendes. Il va plus créer de monnaie, c'est pas pour autant que sa monnaie sera détruite, hein, mais il n'en créera plus. Et on peut imaginer que de la même manière que ici ça rejoint à un moment la monnaie, Icette la rejoigne à son tour. Lui, c'est un vrai nouveau-né parce qu'on a démarré en 2017, 2070, il s'est passé pas mal de temps. Ah, c'est un bébé qui est né, bon, bah, maintenant, je sais pas, il va participer à la création de monnaie comme tout individu. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? On reprend nos 53 ans. Il commence à créer...
Oui, c'est vrai que ça peut devenir un petit peu technique, hein, la monnaie libre, si on veut en connaître la théorie complète. Mais donc voilà, suivez Stéphane Laborde, c'est son génial inventeur. Ça pourrait être une révolution copernicienne qui ferait que même les youtubeurs, youtubeuses se diraient « Bah tiens, on va quand même passer en monnaie libre » et laisser tomber le capital parce qu'il est en train de mettre un petit peu la planète à plat. Donc la suite se trouve sur vidéo@alolise.org. C'est le... la chaîne de PeerTube qui vient directement de ce petit chaton. Et c'était également au domaine musical un petit peu de jazz qui venait de Ghost Rifter avec son Midnight Stroll. Il y avait également juste avant l'intro de Quantum Jazz. Et je crois que c'était même Pierce Murphy avec Will You Whisper qui avait lancé cette petite série... Jazzy après, il fallait se remettre de ce que YouTube nous balançait dans la tronche. On se retrouve troisième vendredi du mois, c'était Fredux au micro, c'était Source, c'était l'émission du Libre dans sa plus belle version, c'est-à-dire ultra simple. Je peux et on se retrouve bientôt. Que la force du Libre soit avec vous, je vous laisse avec Richard Stallman.
Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation est